is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Françoise à l'antenne pour Livres et Amis et Tatiana à la technique. Bah, le monde va toujours aussi mal. J'espère que vous avez quand même, comme dirait Philippe Delerme, quelques plaisirs minuscules. Alors voilà, je vous ai quitté il y a 3 semaines en vous disant à la semaine prochaine. Et bah oui, en fait, il s'est passé 2 semaines de rediffusion parce que j'étais partie sous d'autres cieux. Alors, retour dans notre bonne ville, j'ai reçu les programmes du cinéma de la Baleine, du cinéma de l'Alhambra, plein de belles choses. Et puis, comme d'habitude, le Gyptis, le théâtre de la Joliette. Consommons culturel pour ne pas mourir idiot, c'est toujours ça de prix. Vivre, mourir, oui, je suis très philosophe aujourd'hui et je vous ai amené pour philosopher un grand philosophe de la radio d'il y a 30 ou 40 ans, Pierre Desproges. Un certain nombre d'entre vous s'en souviennent sûrement. Pierre Desproges, il parlait beaucoup de son cancer. Pas de celui qu'il avait, non, de celui qu'il aurait, qu'il était absolument persuadé d'avoir un jour. Et il a fini par avoir un cancer et il en est mort. Donc, bah oui, c'est l'histoire tragique d'un grand pessimiste qui riait des malheurs de la vie, avant que ça lui arrive finalement, et qui riait aussi des malheurs de la vie des autres. On lui attribue la fameuse maxime « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Je pense que c'est tout à fait vrai. De toute façon, les cons, faut pas leur parler, c'est bien connu. Donc, rions de tout, même des horreurs du quotidien, même des horreurs du pas quotidien. Mais pas avec n'importe qui, on est entre de bonnes compagnies. On est en bonne compagnie puisqu'on est sur Radio Galère. Oui, entre gens sympathiques, c'est ça que je voulais dire. Alors, ce matin, nous allons essayer donc de rire avec Pierre Desproges. Nous allons vous lire des extraits de ses chroniques radio des années 80, rassemblés dans un petit opuscule qui s'appelle « Les chroniques de la haine ordinaire ». La haine, non, la haine loin de nous. Haïr, comme disent les bouddhistes, haïr, c'est une perte d'énergie. Consacrons donc notre énergie à d'autres choses, mais Pierre Desproges, lui, pensait que haïr l'horreur du monde, bah, c'était déjà une bonne énergie. Allons-y pour quelques minutes d'absurde, de rire grinçant et bien sûr de dénonciation des puissants qui tentent de nous pourrir la vie. Alors, commençons par... on va prendre un peu d'avance sur le calendrier. Commençons par la préparation des fêtes de fin d'année. Ben vous savez, ça arrive à grands pas. Il commence à y avoir des guirlandes en ville, pas encore éclairées, mais enfin, Les employés municipaux les accrochent et bientôt, elles seront éclairées. Bientôt, ça sera la tentation des orgies habituelles. Non, nous n'irons pas manger du foie gras, du caviar, etc. Non, nous mangerons, comme d'habitude, notre saucisson baguette ou notre baguette saucisson. De la bonne baguette et du bon saucisson. Ah, allez, avec un petit peu de foie gras sur la baguette de temps en temps. Bref, nous irons ne pas faire d'orgie, en tout cas, puisque dans notre monde inégalitaire, bah oui, je vous rappelle que les Restos du Cœur ont besoin d'argent. Radio Galère a besoin d'argent. Oui, Radio Galère a lancé une collecte de fonds. Je ne sais pas si c'est fini, je ne pense pas. Donc, vous pouvez toujours donner de l'argent à Radio Galère, vous pouvez toujours donner de l'argent aux Restos du Cœur. Et figurez-vous que comme les Restos du Cœur ont besoin d'argent, eh bien oui, la famille de Bernard Arnault, la famille LVMH, vient de donner 10 000 euros. Oui, ils sont bien ces gens-là, hein, avec la fortune qu'ils ont. Troisième fortune du monde, comme je dis toujours. Troisième voleur du monde. On ne va quand même pas demander à Elon Musk de donner de l'argent au Restos du Cœur. Donc, bonne nouvelle, la famille LVMH a donné de l'argent au Restos du Cœur. Je vous signale quand même que pendant ce temps-là, les travailleurs de chez Annecy, en Cognac, enfin dans la région du Cognac, sont en grève. Parce que moi, Annecy, de toute façon, puisque ce sont des voleurs et des exploiteurs, ben là, en ce moment, ce sont les travailleurs du Cognac Annecy qui sont en grève. Parce que je suppose qu'on voudrait leur faire fabriquer du cognac avec... moins de personnel, moins d'argent, etc., etc. Enfin bon, comme disait, ou va le dire plutôt dans sa chronique, Pierre Desproges, Dieu vous le rendra, donnez des sous à ceux qui en ont moins que vous et pensez à soutenir tous les travailleurs en grève. Alors, la chronique, ça va être Françoise qui va nous la lire. Ça s'appelle « Les restaurants du foie ». Du foie, F-O-I-E, bien sûr, comme le foie gras.
Attention, il n'y a pas que les nouveaux pauvres, il y a les nouveaux riches. Pour venir en aide à mes amis nouveaux riches qui crèvent dans leur cholestérol en plein hiver de Méribel, j'ai décidé d'ouvrir les restaurants du foie, F-O-I-E. Envoyez-moi des tonnes de verveine et des quintaux de biscottes sans sel, le bon Dieu vous les rendra. Sans vouloir offenser les marchands de confiture, il faut bien se rendre à l'évidence. Les sirupeux commencent à nous les engluer. Depuis des lustres, déjà, la mièvrerie d'un humanisme sanglotant enrobait l'homo sapiens occidental, infiltrant en son cœur débordant de remords colonialistes le flot sucré de la plus vulgaire sensiblerie. Mais bon, on se contentait de patauger dans le filandreux sans s'y noyer. 3 sous pour l'abbé Pierre, 1 marraine pour le Vietnam, 1 cuillerée pour Mamadou, et l'on pouvait retourner finir son foie gras la conscience des barbouillés et l'âme dans les pantoufles. Mais voici qu'une horde électronique de rockers anglophones, surgavés d'ice cream, se prend soudain d'émotion au récit pitoyable de la misère éthiopienne, dont les navrantes images nous prouvent en tout cas qu'on peut garder la ligne loin de Contrexéville. Gravés sur le vinyle, les miaulements effrayants et les brames emmêlés de ces chanteurs transis déferlent un jour sur les ondes, et c'est alors le monde entier qui glougloute dans la mélasse, la larme en crue et la honte sous le bras. À la vue du clip de ces durs en cuir pissotant leur douleur sur leurs leggings, Margot, dégoulinante de chagrin panafricain, se prive des mémoires de Patrick Sabatier pour pouvoir s'acheter le disque. Survient l'hiver. Les nouveaux cons tuent la dinde, les nouvelles dindes se ziblinent. Les nouveaux pauvres ont faim. Les charitables épisodiques, entre 2 bafrées de confidois, vont pouvoir épancher leurs élans diabétiques. Le plus célèbre des employés de Paul Lederman ouvre des restaurants du cœur. Des tripiers doux, des épiciers émus, de tendres charcutiers, le cœur bouffi de charité chrétienne et la goutte hyperglycémique au ras des yeux rouges montrent leur bonté à tous les passants sur les 3 chaînes. Margot revend son disque pour l'Éthiopie pour acheter des pieds de porc aux chômeurs islamiques. Telle une enfant sud-américaine s'enfonçant dans la boue, la France entière fond doucement dans le miel. Des auréoles de Saint-Doux poussent au front des nouveaux bigots du showbiz. Ça tartuffe sur TF1. Dans la foulée, un chanteur sans père se donne aux orphelins. C'est 100 familles sur Antenne 2. Un animateur lacrymal chante la complainte à nodule des damnés du cancer. C'est Saint-Vincent de Paul sur FR3. Un foutu d'aboutir, les pontifs d'Esculape tentent la sébille au carrefour. SOS métastase, médecins sans scanner, ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Partout, les alarmés du salut nous poissent de leur déjection sucrée. Heureusement, Dieu m'écartèle, si possible sous anesthésie générale. Il reste encore en France, en Colombie et en Éthiopie, des humains qui n'ont rien perdu de leur dignité, qu'un sort heureux a mis à l'abri de la pitié des hommes. Eux n'ont pas à mendier. En casquette à galons dorés, ils somnolent dans les tourelles antiseptiques de leurs chars astiqués. Ils sucent les caramels en attendant le déclenchement de la troisième. Quand on lèvera les impôts pour les mourants du monde et qu'on fera la quête pour préparer les guerres, j'irai chanter. En attendant, oui, mon pote, j'ai 100 balles et je les garde. Quant au...
Ouais, j'ai 100 balles et je les garde. Sauf, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pour financer, bien sûr, Radio Galère et pour financer quand même les Restaurants du Cœur, que, en l'occurrence, Pierre Desproges critiquait, enfin, il critiquait pas les Restaurants du Cœur, il critiquait Coluche. Hein, il faisait la petite méchanceté à Coluche, là, parce que je crois que Coluche, c'était quand même un peu son pote. Et d'ailleurs, Coluche l'avait invité dans certaines de ses émissions. Donc, on n'aura pas de critiques sur les émissions de Coluche. On n'aura pas de petites citations de Pierre Desproges sur, justement, l'humour de Coluche. Mais là, simplement, sur le... Comment pourrait-on dire le confort de donner sur les médias, le confort de participer à ces espèces de collectes collectives organisées sur les télévisions qui elles, effectivement, sont dans la ligne de tir de Pierre Desproges. Et puis, à propos de ligne de tir, oui, il termine sur les galons dorés des militaires et les galons dorés des dictatures un peu partout dans le monde. Alors, on va continuer dans la même veine, avec toujours un petit peu de grinçant, un petit peu de vulgarité aussi, parce que, justement, il aime bien quand même, Pierre Desproges, en rajouter dans le style « je suis pas propre et j'en suis fière ». Mais on va continuer donc avec un titre un peu différent, mais qui met aussi les pieds dans le plat. « La drogue, c'est de la merde ». Ça s'appelle un clip. Ça s'appelle un clip parce que c'est bref. Moi, j'aurais dit plutôt un film, parce que ça dit une histoire et que ça porte une idée, mais effectivement, ça dure une minute, donc c'est un clip. Dans la cour d'un lycée, un grand adolescent tourne autour d'une gamine. On le devine encore boutonneux et elle, encore chrysalide, avec dans les yeux cet émoi brûlant qu'elles ont à l'âge des seins qui poussent. Un petit garçon joli les regarde, intrigué, un peu intéressé par ce qui se passe. Et le grand, doucement, enveloppe la petite de son bras rassurant et il la pousse ainsi jusqu'aux toilettes. Là, il extrait de sa poche un petit sachet blanc et le pose sur le bord du lavabo. David ? Oui, j'aime à penser que le petit s'appelle David. Tout philo-sémitisme mis à part. David s'interpose alors entre la nymphe et l'acnéen, s'empare du sachet blanc et le jette dans la lunette du cabinet. Et il tire la chaise d'eau et apparaît alors, bouffant tout l'écran, en lettres rouges, ce cri du cœur « La drogue, c'est de la merde ». Ce petit film qu'on verra bientôt à la télévision ou dans les salles de cinéma, enfin à la télévision si les programmateurs s'éveillent à l'intelligence, dans les salles de cinéma, en tout cas parce qu'ils vont être payés pour ça. Ce petit film, donc, a été écrit et réalisé par Jean-Marie Perrier. en collaboration étroite avec le chaleureux soutien de Jacques Séguéla, dont le quotient intellectuel dépasse largement le chiffre de la température anale. Dès qu'il cesse de nous comparer le message publicitaire à l'expression onirique de quelques néo-romantismes éthérés. Le film de Perrier et Séguéla dure une minute. Une minute et c'est un chef-d'œuvre. Ben oui, ça existe, un chef-d'œuvre de 60 secondes. Personnellement, je n'échangerai pas « Viens Poupoule » contre « Deux barils de la Traviata », ni ce film plume-ci contre « Deux quintaux de Lelouch ». Celui-ci, il est beau et terriblement efficace. D'ailleurs, je l'ai montré à une petite fille qui m'est familière et qui a à peu près l'âge de celle du film. Et j'ai lu dans ses yeux, furtif et flamboyant, le dégoût salutaire des immondices exotiques. Et pourtant, Dieu m'émascule, toujours possiblement sous anesthésie générale ou au laser, ça fait moins mal. Il en est trouvé de consternantes badernes pour hurler au scandale, justement, sur ce film. Ces censeurs, que seule la crainte du pléonasme m'interdit de qualifier d'imbécile, se montrent choqués par la dureté du film. Engoncés dans leur carcan étriqué de certitudes apprises, ils sont de ceux qui hurlent à la lune, morte, les cris de leur cœur surgelés. On ne doit pas dire de gros mots, même pour lutter contre la drogue. On ne doit pas mettre ses doigts dans son nez quand on monte à l'assaut. On ne doit pas mettre ses coudes sur la chaise électrique. Les mêmes se justifient en arguant que ce type de propagande attire les jeunes vers la drogue au lieu de les dégoûter. Ils disent aussi que les manifs antiracistes exacerbent les désirs de pogrom des haineux qu'en cuir. Alors quoi ? Chut, silence, pas un mot ? Après tout, c'était le bon temps, celui où leurs bonnes enceintes de leurs soubresauts obscènes se défonçaient sans bruit les entrailles à l'aiguille à tricoter avant d'aller crever au fond du caniveau, comme un junkie sous overdose. Je connais bien ce type d'argument. Récemment, à la fin d'un spectacle, dans une ville de province, j'ai reçu dans ma loge un journaliste d'une radio locale, un de ces zombies mous qui s'imaginent qu'il suffit de flatuler dans un Walkman pour faire de la radiophonie. Eh bien, en essayant de brancher son Philips à deux têtes sur un magnétophone Henri II, ce drôle de mammifère me dit qu'il avait aimé l'essentiel de mon spectacle, ce qui me rembrunit d'emblée. Et puis il ajouta, je cite sans fioriture, « Mais comment ça se fait que, dans vos sketchs, vous rigolez des cancéreux ?» Voilà, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et on va continuer quand même, on va continuer avec Dieu. Hein, c'est une bonne fréquentation. Et c'est Françoise qui va nous lire « Dieu n'est pas bien ».
Ce matin-là, qui était le matin du septième jour, Dieu ne se sentit pas très bien. Il faut dire que les six premiers jours, il n'avait pas ménagé sa peine, créant coup sur coup la lumière, la terre, les mers, l'homme, les animaux, le ciel bleu, les étoiles jaunes, enfin tout ce bordel de Dieu qui nous entoure et dans lequel nous n'aurions jamais pu connaître l'arthrite du genou ni la bombe à neutrons. Et donc, le septième jour, Dieu se sentit mou et s'en fut consulter l'interne de garde à l'hôtel Dieu. « Comment allez-vous, mon Dieu ?» s'enquit le docteur. Et Dieu dit « Bof, comme un lundi. »« C'est fâcheux, » dit le docteur, « on est dimanche. »« Mais que ressentez-vous précisément ?» Et Dieu dit « C'est difficile à dire. »« J'ai l'impression d'être creux et sans contour, comme ballonné, mais sans la baudruche autour du rien. »« L'impression de ne pas être là et de ne pas être ailleurs non plus. »« Pour être clair, docteur, je crois que je n'existe pas. » Dans ma situation, vous comprendrez que c'est extrêmement pénible. Rassurez-vous, ce n'est qu'une sensation, affirma le docteur, qui était plus pieux qu'une cuisse de grenouille intégriste. Je vais tout de même vous examiner. Dites 33. Et Dieu dit, on ne donne pas d'ordre à Dieu, on le prie. Je vous prie de dire 33, dit le docteur. Et Dieu dit, 33, 33, 33. Bien, maintenant, « Faites « Ah !» Je vous prie de faire « Ah !» Et Dieu dit « Ah !»« Vain Dieu !» s'exclama le docteur qui voyait grand. Et Dieu dit « E-A-O-U-E-I-A » Eh bien, c'est incroyable. Vous avez la gorge si sombre que je n'y vois rien. » Et Dieu dit, « C'est normal, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais vous n'avez pas de moi profond. Sans son moi profond, on ne peut pas vivre, reprit le docteur. Quand je vous disais que je n'existe pas, c'est pas des conneries, dit Dieu. C'est égal, on est bien peu de choses, constata le docteur. On n'est même rien du tout, oui, dit Dieu. Ni moi, ni vous, puisque sans moi pour vous créer, vous l'avez dans le néant. Ah, nom de Dieu, dit le docteur. Je vous en prie, dit Dieu, combien vous dois-je, docteur ? Je ne sais pas, moi, donnez-moi ce que vous voulez. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme d'habitude ? Comme d'habitude. Et deux baguettes bien cuites pour le docteur Freud, dit Dieu.
Oui, on ne sait pas trop hein, si c'est le docteur Freud, le boulanger Freud, enfin, etc. La petite rencontre, donc, là encore, un peu absurde, de Pierre Desproges avec la religion, ou avec ceux qui croient, ou avec ceux qui croient qu'ils croient, etc., etc. On va continuer toujours un petit peu dans le rire grinçant, avec un critique, enfin disons avec l'histoire d'un critique de cinéma. Vous savez qu'on aime bien le cinéma ici, mais pas tout le cinéma, bien sûr. Et l'idée, peut-être qu'il est difficile de faire rire. Vous savez, Molière l'a dit, c'est une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens. Eh bien, faire rire les honnêtes gens ou les malhonnêtes gens, finalement, beaucoup s'y attellent à notre siècle. Et à notre siècle, ce n'est plus trop au théâtre, c'est plutôt au cinéma. Donc, critique d'un critique de cinéma. Un critique de film, dont je tairai le nom, afin qu'il n'émerge point du légitime anonymat où le maintient son indigence, écrivait dans un hebdomadaire dans lequel, de crainte qu'il n'y pourrisse, je n'enfermerai pas mes harengs. Un critique de film, disais-je donc, avant de m'ensabler dans les méandres sournois de mes aigreurs égarées entre deux virgules si éloignées du début de ma phrase que voilà-t-il pas, que je ne sais plus de quoi je cause, un critique de film écrivait récemment, à propos, je crois, d'un film de Claude Zidi, ouvrez les guillemets avec des pincettes, c'est un film qui n'a pas d'autre ambition que celle de nous faire rire. Eh bien, je dis merci. Merci à toi, incontinent crétin justement ignoré. Merci d'avoir fait sous toi, permettant ainsi à l'humble chroniqueur radiophonique quotidien de trouver matière, je pèse mes mots, à entretenir sa verve misanthropique que les yeux tendres des enfants et la douceur de vivre en ce pays sans barreaux aux fenêtres des dictateurs en fuite font encore trop souvent chanceler. Ah oui, c'est la verve qui chancelle et c'est les barreaux aux fenêtres des dictateurs en fuite qui n'existent pas. Oui, ça doit être ça. Merci, sinistrissime ruminant, pour l'irréelle perfection de ta bouse étalée comme un engrais prometteur sur le pré clairsemé de mon inspiration vacillante, où je cherchais en vain ce soir les trèfles à quatre griffes de ma haine ordinaire qui s'épanouit jour après jour au vent mauvais. Mais pour écouter dans les tunnels, essayez la FM, vous verrez, les ondes passent mieux. Relisez ensemble, ou relisons ensemble, cette sentence digne de figurer au fronton du mausolée à la gloire du connard inconnu mort pour la transe. C'est un film qui n'a pas d'autre ambition que celle de nous faire rire. D'abord, je passerai sur l'écrasante fadeur du lieu commun. On a justement mis le doigt récemment sur l'immense ennui distillé à longueur de discours par la fameuse langue de bois des politiciens, enfin des politiciens et des politicons. Mais tirez donc celle de certains journalistes et vous verrez qu'elle est chargée. On se perd en conjectures sur les causes de l'accident et on murmure dans les milieux généralement bien informés qu'on laisse entendre de sources sûres, mais devant la masse de tôles froissées et de poutres calcinées, l'innocente victime ne fait que répéter « c'est affreux » et gageons que cette soirée n'engendrera pas la mélancolie. Nous y revoilà. Je sens qu'ils vont bien dormir au sommet de la francophonie. Ce qui, son génie, je vous l'accorde, me fait bouillir, c'est qu'un cuistre ose rabaisser l'art, que dis-je, l'artisanat du rire, au rang d'une palotte besognette pour façonneur léthargique de cocottes en papier. Qu'on me comprenne, je ne plaide pas pour ma chapelle. D'ailleurs, je ne cherche pas à vous faire rire, mais seulement à nourrir ma famille en ébauchant ici chaque jour un grand problème d'actualité. Nous sommes dans une chronique qui n'a pas d'autre prétention que celle de me faire manger. Mais qui es-tu, Zéro Flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire. Un film, un livre, une pièce, un dessin qui cherchent à donner de la joie. À vendre de la joie, d'accord, faut pas déconner. Ça se prépare, ça se découpe, ça se polie. Une œuvre pour de rire, ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec ce trou béant dans ta boîte crânienne. Molière, qui fait toujours rire, maintenant, au XXIe siècle, non, même au XXe. Molière, qui fait toujours rire, a transpiré à en mourir. Chaplin a sué, Guitry s'est défoncé, Woody Allen et Mel Brooks sont fatigués, souvent, pour avoir eu 20 heures par jour, la prétention de nous faire rire. Et Claude Zidi, bah oui, parfois se décourage et s'épuise, mais continue, et c'est souvent terrible. Mais il arrive que ses films ne fassent rire que lui et deux charlots sur trois. Mais il faut bien plus d'ambition, d'idées et de travail pour accoucher des ripoux que pour avorter de films fœtus comme ceux d'un certain nombre d'intellectuels qui nous environnent. Alors, pauvre petit censeur sans joie, tu sais ce qu'il te dit, Monsieur Hulot ? Monsieur Hulot ? Mais oui, Monsieur Hulot, bien sûr. Vous a-t-il fait rire, Monsieur Hulot ? C'est là que ça devient drôle. Est-ce que les ripoux ont décroché le succès à leur époque ? Mais oui, complètement. Et le deuxième film qui, cette année-là, donc on devait être en 80 et quelques, a été un grand succès public, c'est L'Effronté. Alors, moi, je ne vais pas vous faire entendre la musique des ripoux. Enfin, elle est de Francis Lai, elle est bien, la musique des ripoux, hein, mais quand même. Je préfère vous faire entendre la musique de L'Effronté. Et la musique de L'Effronté, c'est un groupe italien dont j'ai évidemment oublié le nom, mais vous le retrouverez, et qui va nous chanter « Sarà perché ti amo ». Merci, Tatiana.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
Thank you.
sarà perché ti amo. C'est sûrement parce que je t'aime. C'est sûrement parce que je t'aime, dit ce groupe, qu'il y a le printemps, qu'il y a des chansons, que, etc. Alors écoutez, nous sommes en automne, c'est pas grave. C'était une petite perle des années 80. J'espère que vous êtes bien trémoussés en cadence. C'est quand même un truc qui donne la forme, hein, le matin. Ah oui, ce matin, il y a une copine allemande qui m'a envoyé aussi des chats rockers, des chats berlins, des chats berlinois plutôt rockers. Eh bien, c'est chouette, ça donne la forme le matin, oui, je disais. Et alors, pour la forme du matin, on va continuer avec un petit texte, toujours de Pierre Desproges, bien sûr, qui s'appelle « Les trois draps du prince d'Orient ». Et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire parce que c'est un peu la reprise de la fable de La Fontaine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est le plus petit de la hiérarchie, en l'occurrence hôtelière, ou de la hiérarchie princière des princes d'Orient, qui trouve la solution, vous verrez, dans une situation absolument épique. Puisque non, dans la fable, nous ne sommes pas à Cannes, mais face au Léman gris-bleu, nous dit le conteur. Les trois draps du prince d'Orient.
Imaginez, face au Léman gris-bleu, que la mouette escagasse, l'un des plus beaux palaces hôtels de Genève. Un grand beau cube adouci aux entournures, cachant aux yeux du populaire, sous sa brillante carapace de verre fumé, des chambres de princesse et des salons d'ébène, où seul le cliquetis assourdi d'une cuillère d'argent sur un cristal de dôme, où le froissement craquelé d'un billet de $100 viennent parfois troubler à peine le silence feutré des moquettes vert tendre, si profondes que les plus petits émirs, chatillés sous les bras par leurs doux poils de laine blanche épurée, les parcourent en pouffant d'un beau rire oriental. J'y vins dormir trois nuits aux frais de mon éditeur, lequel, ébloui par le chiffre de mes tirages, au seuil de l'année nouvelle, m'avait envoyé ronronner là pour que je m'y partageasse entre deux interviews compassées par-ci et deux intervieweuses compassées par-là avec des gros lolos pour la partie ludique.
Ah ben oui, bah on est Pierre Desproges et puis on est quand même sexiste. Vous savez, on est en plus dans les années 80, donc voilà.
Au soir du troisième jour, alors que l'hôtel était bondé d'une horde gominée de parvenus de style Vuitton-Cartier, atterri en ces lieux pour assister à je ne sais plus quel salon de la décoration de bureau pour amateurs d'ordinateurs Louis XV, voici qu'apparaît à la réception et à l'improviste un magnifique ministre princier d'un état du Golfe avec une noble tête de pirate du désert sur un ensemble balmain pied de poule et un gorille élastique et camional, beau comme un Depardieu rectifié au brou de noix.
Oui, ça, c'était aussi il y a 40 ans.
Du temps où Depardieu était un jeune homme. « Cher réceptionniste, dit le ministre, Outalib bi al-Rofra, mia, wa, tamani, ya, wa, talatin. Plaît-il ?» s'étonna le réceptionniste. « Well, dit l'armoire. » « The prince says that he would like to get the room 138. » Le réceptionniste, hélas, dut s'aplatir en excuses navrées. La suite 138, celle que le prince et son roquis des sables habitaient habituellement, était exceptionnellement occupée. Son Altesse aurait dû réserver. Mais il restait une chambre simple, la 147. Or, le ministre exigeait que son garde du corps dormît dans la même suite que lui, sur un lit de camp dans la pièce contiguë. Hélas, oulala, oulala, cette nuit-là, non seulement il ne restait qu'une chambre, mais tous les lits de camp avaient été réquisitionnés pour les épouses ou les étaïres des cadres brillantinés susdécrits. Son Altesse accepterait-elle exceptionnellement que son collaborateur dormît à l'étage du dessus où restait une chambre mansardée sous le toit ? « Ya, rara bitek !» hurla le ministre. Ce qui peut se traduire en substance par « putain de bordel de merde, ça va chier, nom de Dieu !» Le réceptionniste affolé réveilla le directeur. Le prince était le meilleur client de l'hôtel. L'été, il venait prendre les eaux du lac avec son harem. Les cousines de son harem, les sœurs des cousines de son harem et des tas de potes sous émurs pétrolifères, djellabiques, qui venaient se déverser leurs milliards superflus par les fenêtres du casino. La seule exigence de ce client en or était qu'on fît dormir son musclé près de lui. Je suis infiniment confus, dit le directeur, je ne vois qu'une solution. Ce serait que monsieur, ajoutit-il en montrant la bête humaine, couche dans le lit de votre Altesse, dans la chambre 147. Je ferai remarquer à votre Altesse qu'il s'agit d'un lit de 250 cm de large, ce qui exclut toute éventualité de promiscuité désobligeante. N'est-ce pas ? Ajouta-t-il avec un accent vaudois approximatif, car il était de Berne.
N'est-ce pas ?
Yara kakbitek, hurla la seigneurie, signifiant qu'il n'était absolument pas question qu'un prince de sang s'allongeât jamais dans les mêmes draps qu'un roturier du même sexe. Finalement, c'est une petite soubrette espagnole qui trouva la solution. Elle suggéra timidement qu'on mît trois draps dans le lit, le prince dormirait entre le premier et le deuxième drap, le gorille entre le deuxième et le troisième drap. On l'applaudit. On fit comme elle avait dit. Tout le monde dormit bien cette nuit-là. Le prince n'épousa pas la soubrette, mais il lui fit porter des fleurs tout à fait merveilleuses qui la firent s'évanouir de ravissement. Cette fable ne vaut que parce qu'elle n'en est pas une. Elle est authentique et rassurante, dans la mesure où elle nous prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi pour réussir le clivage des classes sociales dans les contes à dormir couché.
Oui, moi j'aime bien. Hein. C'est carrément du très haut des proches parce que c'est même pas vulgaire. Donc on peut se faire plaisir facilement avec bon d'accord un peu de racisme contre les Arabes, un peu de sexisme contre les filles à gros lolo. Un peu de quoi, oui bien sûr, on n'est pas tout à fait de bon goût, mais presque. Alors on va faire pire maintenant avec un texte qui s'appelle « La démocratie ». Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Et pourtant, moi-même quand on me demande « êtes-vous démocrate ?» Je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait que l'on cessa plutôt de se taper. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Réfléchissez une seconde, ce n'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors que, en monarchie absolue, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire, puisqu'elle est la même pour tout le monde, pour les pour et pour les contre, vous me direz que, justement, ça ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec une couronne sur le front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne fais pas de bouquet. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille en tout régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but, quand ils font partie de la majorité élue, que d'essayer d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de refaire mes toitures me pousse encore trop souvent à sucer les joues de certains dans des cocktails suintants de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard. Ou à avoir constitué le dernier parti d'extrême-gauche, rajouterais-je moi personnellement. Enfin bon. Et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux Belmonderies boulevardières. Parce que c'est ça aussi la démocratie. C'est la victoire de Belmondo sur Fellini. Ben oui, on peut le regretter. C'est aussi l'obligation, pour ceux qui n'aiment pas ça, de subir à longueur d'antenne le football ou les embrassades poilues de ces cro-magnons décérébrés qu'on a vus s'éclater de rire, même sur le charnier de leurs supporters il y a quelques années au Wesel. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et de quelques glousseries reconverties en dindonneries tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Rezer ou les batailleurs de chez Polak ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner d'intelligence sont reportés à minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30. Après leur fromage du soir, d'un spectacle irréel, d'un béat trentenaire figé dans un souvenir définitif et offrant des automobiles clés en main à de pauvresses artistiques sans défense et éventuellement sans permis de conduire. Bon, je m'interromps tout de même, hein, c'est Dominique qui reprend la parole là, après Pierre Desproges. Qu'est-ce que c'était bien ça ? C'était la partie des proches qui se fichent de la télé des années 80. Et on est quand même un certain nombre à avoir râlé quand on regardait encore la télé. Il y a bien longtemps qu'on a arrêté. Quand on regardait encore la télé, par exemple, dans les années 80, et qu'on râlait en effet sur le fait que les bonnes émissions, c'était après 11h du soir, ou que le ciné-club du dimanche... c'était aussi après 11h, après le film populaire de 8h30. Ouais, il dit des trucs intéressants, des proches. Alors reprenons. En cherchant bien, pardon, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde, ceux semblables à la schlag des bottes noires ou au goulag rouge étoilé. Alors, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, non, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et c'est encore Dominique qui reparle. Un certain nombre d'intellos dans des cellules aseptisées, vous savez, on en parle ces temps-ci. Même ceux avec qui on n'est pas d'accord, on n'a pas envie qu'ils aillent en prison parce qu'ils émettent des idées. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et puis, dans ces régimes, dans les uns comme dans les autres, ceux qui sont aussi à l'abri de leur croissant de lune ou de leurs étoiles, dans les drapeaux rouges, chez les chemises noires, chez les drapeaux verts ou verts et blancs, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma bras-dessus avec la femme ou l'homme qu'il aime. Dans ces régimes-là... les chefs des drapeaux rouges, les chefs des chemises noires, les chefs des drapeaux verts et blancs ne vont qu'au pas cinglant de leurs bottes guerrières, le torse pris dans un corset de fer, à l'épreuve des balles et de l'amour, bien sûr. Ils vont tragiques et le flingue sur le cœur. Ils vont métalliques et la peur au ventre vers les palais blindés qui s'ordonnent loin de... Ils marchent droit sur leurs casquettes, ils marchent les yeux durs, sous verre fumé, cernés de vin gorille et avec des tireurs partout sur les toits. La mort, finalement, pour les chefs des drapeaux rouges ou pour les chefs des chemises noires ou pour les chefs des drapeaux verts et blancs, la mort, non, elle n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer. La mort, elle est plutôt à Stockholm ou à La Haye. Elle signe d'un trait rouge sur une page blanche son aveu d'impuissance à tuer la liberté des hommes. Oui, finalement, où est-elle la véritable démocratie ? Tant qu'on aura la liberté d'aller bras-dessus au cinéma le soir avec la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime, on sera peut-être encore en démocratie. Voilà, c'était la démocratie. On va continuer en démocratie, comme un peu le disait Pierre Desproges. Là, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, même si malheureusement, notre démocratie n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. C'est encore pas mal. On va lire, toujours dans le registre pseudo-historique, une petite histoire qui s'appelle « La cour ». Et la cour, vous allez voir, c'est... Non, on n'est plus dans le, comment dirais-je, dans le royalisme des Bourbons. Mais la cour, ça serait plutôt celle du showbiz. Et c'est Françoise qui va nous en parler.
Je me rappelle ce dîner en banlieue chez ce grand amuseur français. C'était, je crois, en 1982. C'est-à-dire à une époque où il était déjà plus célèbre en France que Roland du Billard ou la bataille de Marignan. Il m'avait fait l'honneur d'imaginer que j'étais capable de collaborer à l'écriture d'un film qu'il était plus ou moins sur le point de tourner. À cet effet, et aussi, je pense, par pure amitié, il m'avait convié à souper chez lui en toute intimité, c'est-à-dire en compagnie de 80 parasites nocturnes, abonnés quotidiens de sa soupe populaire. Certains hauts personnages accrochent ainsi à leur traîne, par altruisme ou pour se rassurer, des conglomérats gluants d'indécrochables sangsues. J'en ai vu de ces phagocytaires. J'en ai vu sautiller humblement derrière un écrivain célèbre. J'en ai vu des cultivés à diplôme s'aplatir voluptueusement pour mieux flagorner une chanteuse grasseyante, plus vulgaire qu'une virgule sur le mur gris des toilettes hommes de la gare du Nord. J'en ai vu s'accrocher au fauteuil d'infirme d'une vieille star lyophilisée. J'en ai vu ramper sous des pétasses cinégéniques à lolo centripète.
Ah bah oui.
J'en ai vu, dans le showbiz, ramper de si peu dignes et de si peu respectables qu'ils laissaient dans leur sillage des rires de complaisance aussi visqueux que les mucosités brillantes qu'on impute aux limaces. Ce soir-là, chez mon hôte, c'en était plein. De la moquette aux baignoires et jusque sous l'évier où les plus serviles léchaient les serpillières pour avoir l'air utile. Bref, si cet homme eût été de la merde, il s'en eussent été les mouches. Quand je suis entrée dans le séjour, le maître de séance m'entourant les épaules d'un bras affectueux, ils m'ont regardé drôlement. Sous les saluts vibrants de jovialité fraternelle où les gens de ce milieu cachent mal leurs indissolubles haines réciproques, je devinais des regards noirs d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? On l'a jamais vu, là !» Et soudain, j'ai compris avec effarement que j'étais à Versailles et 3 siècles plus tôt. Ça me crevait les yeux. Ces soupinques aux cheveux verts, ces faux loulous qui sentaient les herbes rares et le vin des rochers chauds, ces intellos d'agences de pub, ces dessinateurs en vogue à l'insolence calculée, ces starlettes argotiques du rock à gogo, ces gens fléchis, courbés, pentus, c'était la cour. La cour de Louis le Grand, le soleil, celui-là même que l'État, c'était lui, rebaptisé Rigolo XIV, pour ce siècle un peu plus étriqué. Eux étaient ses courtisans, guettant ses miettes et ses bons mots en forçant leur sourire pour s'attirer ses grâces. Et moi, qu'on n'avait encore jamais vu au petit souper du prince, j'étais l'intrus, la menace potentielle de leur avenir improbable, l'importune matérialité d'un favori possible. Car tous avaient à vendre des idées, des chansons, des sketchs à deux voix, leur sœur ou un bateau à voile pour le bon plaisir du roi sur l'eau. Je me rappelle fort bien celui du bateau à voile. Il se tenait accroupi au pied du maître assis. Fébrilement empêtré dans les maquettes de ses monocoques, il se débattait sans grâce dans un manteau de fourrure pâle, comme un gros labrador mou, flattant les escarpins de son chasseur repu. Lequel ne l'écoutait même pas, car il dormait un peu, l'œil mi-clos, contemplant les volutes exotiques de son mégot de foin des Indes. Parmi ces soumis, je reconnus quelques chanteurs électroniques qui brament aujourd'hui encore leur indignation face aux injustices de classe. J'ai pris congé pour aller vomir plus loin.
Un peu méchant, comme d'habitude, mais après tout, sûrement mérité, en effet, puisque les cours se déplacent, il y a toujours les cours politiques, il y a toujours les cours des puissants, mais en effet, les puissants sont éventuellement ceux du showbiz. Donc oui, on peut échapper peut-être au cours, on peut refuser ce genre de compromission, c'est ce qu'a l'air de dire Pierre Desproges. Et pour terminer, peut-être, je ne sais pas si ce sera notre dernière chronique, exactement en fonction du temps qui nous reste, je voulais vous faire une petite bluette qui met en scène donc Pierre avec sa fille. Mercredi, rude journée, pas d'école, les minuscules sont lâchés. Ils font rien qu'à embêter les parents qui essaient d'écrire une chronique pour le poste. Ils font rien qu'à poser des questions idiotes. Et tout à l'heure, avec du chocolat poisseux plein la figure, ils viendront vous faire des bisous et vous demander un câlin. Ah là là, on ne devrait pas procréer ainsi à l'aveuglette. Enfin, pas grave. Le plaisir est là aussi. Et alors, en plus d'engluer, disais-je, ça pose des questions idiotes. Papa, où c'est le règne animal ? Le père est à l'ouvrage, il n'entend que d'une oreille incertaine. Mais non, on ne dit pas le règne animal, on dit le règne d'animal. Mais non, non, la maîtresse, elle a dit règne animal. Je n'aime pas être contredit comme ça, surtout quand j'ai tort. Mais bon, puisque nous sommes mercredi et que mes chers adorables Minus traînent à portée de transistor au lieu de défenestrer le chat du voisin, je vais quand même continuer. Alors, voici mon cours du soir sur le règne animal. On prend son cahier, on prend son crayon et je ne veux pas de feutre, ça fait des taches. Laissons les tâches pour le chocolat. Et donc, en titre, le règne animal. Animal en un seul mot. Le règne animal. L'animal est un être organisé, doué de mouvements et de sensibilité, et capable d'ingérer des aliments solides par la bouche, enfin à côté de la bouche si c'est du chocolat. Le règne animal se divise en trois parties, les animaux, l'homme, les enfants. Les animaux sont comme des bêtes, tout leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure, ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi, très souvent par terre. Ils se reproduisent dans des clairières et même place de l'église. Ils ont des zézettes et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Et c'est pourquoi ils continuent de batifoler même quand ils ont 39. L'homme. Remarquons au passage que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier, parce que l'homme est unique, et même si sur Terre, un homme sur deux est une femme. De même, nous pourrions dire que les animaux font des crottes, mais que l'homme sème la merde. L'homme, d'ailleurs, est un être doué d'intelligence. Sans son intelligence, il jouerait dans l'herbe ou ferait des bulles au lieu de penser au printemps. Ah oui, c'est vrai, comme tout à l'heure nos chanteurs. Sur les ondes. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser les boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse. Il arrive aussi, mais moins souvent, que l'homme utilise son intelligence pour donner à l'humanité la possibilité de se détruire en une seconde. Et on dit alors qu'il est supérieurement intelligent. C'est le cas de M. Einstein, de M. Sakharov ou de M. Oppenheimer, qui ont bien fini ou failli finir enfermés sur le tard, mais tout de même. Les hommes ne mangent pas de la même façon selon qu'ils vivent dans le nord ou dans le sud de la planète. Dans le nord du monde, ils se groupent autour d'une table. Ils mangent des sucres lourds, des animaux gras en s'appelant « cher ami » et ils succombent étouffés dans leur graisse en disant « docteur, docteur ». Dans le sud, ils sucent des cailloux ou des pattes de vautours morts et ils meurent tous aussi, mais secs et désolés et penchés comme des roses qu'on oublie d'arroser. En réalité, les enfants, eux, ne sont ni des hommes ni des animaux. On peut dire qu'ils se situent entre les hommes et les animaux. Observons un homme occupé à donner des coups de ceinture à une petite chienne cocker ou à sa petite fille. Oui, bien sûr, si un enfant vient à passer, il se met aussitôt entre l'homme et l'animal, c'est bien ce que je disais. Ce n'est pas une raison pour nous coller du chocolat sur la figure pendant que nous écrivons des choses légères pour oublier les vautours ou les coups donnés aux petites filles. Vous voyez, même en 1980 et quelques, hein, Pierre Desproges, il avait bien tout compris et il est en pleine actualité avec ce qui arrive malheureusement encore oui, dans nos belles villes, bien policées et bien démocratiques, dans nos belles villes, disais-je, où en effet les enfants et les femmes prêtent des coups régulièrement de gens qui sont tout à fait bien élevés. Ah oui, quand même. Il y avait une chronique que je voulais vous lire. C'est « Nous irons au Mexique pour voir trembler la terre. Nous irons à Rio pour compter les enfants pauvres. Nous irons à Moscou voir la Moscova bleue. Nous irons à New York s'user des sorbets mous et faire au fond d'un taxi jaune des choses interdites. Nous irons à Jérusalem ou à Berlin nous lamenter au pied du mur. » Je vous rappelle que c'était en 80. Nous irons à Colombey en chemise avec deux églises. Nous irons à Vichy dans la rue Maréchal goûter les eaux thermales. Nous irons au fond du désert compter les bouts d'hélicoptères oubliés cet hiver sous la poussière automobile. Nous irons dans les Carpates frissonner à la pensée du loup-garou. Nous irons à Tananarive voir si Manana en revient. Nous irons à Pékin pour bouffer chez Maxime et voir si la Chine commence à s'habiller cardin. Nous irons à Ibiza en compagnie de Mélissa. Nous irons au sud du Portugal. Nous irons au bout du monde. Nous irons à Paris-sur-Seine. Nous irons voir la Joconde. Nous irons au bout du monde, oui, mais nous n'irons plus au Liban. Les cèdres sont coupés, les enfants que voilà ne savent plus chanter. C'était la dernière chronique de Pierre Desproges que je voulais vous livrer. Elle avait été écrite en 1983. Eh bien, je vous laisse partir au bout du monde et revenir à Marseille pour la semaine prochaine, ensemble sur les ondes de Radio Galère. À bientôt, bonne journée.
Here's a song that comes from Tanzania.